Bonjour à toutes et à tous, très chers frères et sœurs. Vous m'entendez bien ? Ok, parfait. Est-ce que vous allez bien ? Oui ? Super. Quelle grâce, quel privilège, quelle joie on a tous ensemble de se réunir ici, de pouvoir écouter la parole de Dieu, de pouvoir également méditer et de se laisser transformer également par celle-ci. Aujourd'hui, le texte que nous allons regardez ensemble, on l'a lu. Merci Alain de nous l'avoir partagé. Se trouve dans Matthieu chapitre 24, versets 23 à 44. Merci Denis. Et comme vous le savez, en ce moment, c'est la fin de l'année. Vous le voyez, il fait pas beau. Il fait froid. On a le blues à cause du temps. Certaines personnes, en tout cas. Et également pour notre série d'études de la parole, nous arrivons également sur la fin de l'année et nous allons amorcer durant cette semaine, donc à partir de cette semaine jusqu'à la fin de l'année, une nouvelle série d'études qui a pour thème « Dans l'attente de son retour ». Dans l'attente de son retour. Et en parlant d'événements de fin d'année, je ne sais pas si vous savez ce qui va se passer le vendredi prochain, donc vendredi 26 novembre 2011. Est-ce que vous savez ce qu'il va se passer le vendredi 26 novembre 2021, pardon. Vendredi prochain, en parlant d'événements de fin d'année. Un événement important. Comment ? Black Friday. Ouais, il fallait que ce soit l'américanophone de notre groupe qui le dise exactement. Alors, ça ne marche pas. Mais est-ce que tu peux... voilà. Donc exactement, c'est le Black Friday. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Black Friday, à part que c'est la traduction d'un vendredi noir. Qui sait donc, ah, très bien. Donc Eliane, pour toi Eliane, le Black Friday, c'est un moment dans l'année... C'est un moment dans l'année où en fait il va y avoir des soldes sur le plus souvent des produits électroniques. Et où c'est le moment où tout le monde est prêt et on va acheter. C'est le moment, c'est parti, il y a le signal, on achète. Donc ça implique, ce Black Friday, qu'on prépare. Alors quelle est la liste de choses que je veux acheter ? Peut-être quels sont les sites sur lesquels il va y avoir les meilleures affaires ? Quels sont les bons plans à avoir ? Quelles sont les réductions à profiter ? Enfin, j'imagine. Hein. Je pense que c'est ça. Toute une logistique qui se met en place pour être prêt le jour présent, dès que le signal est lancé. Aujourd'hui, on va vous parler d'un autre événement, bien plus important encore que le Black Friday. Un autre événement qui arrive, un autre événement qui est proche. Aujourd'hui, on va s'intéresser, comme on l'a lu tout à l'heure dans le passage, au retour de Christ, dans Matthieu chapitre 24. Nous allons voir aujourd'hui quelque chose de central. Rappelons-nous du retour de Christ, rappelons-nous que Christ revient et soyons dès à présent préparés à son retour. On va le voir qu'est-ce que cet événement le plus important de l'histoire de l'humanité implique pour nous, quels sont également les signes que Jésus-Christ nous raconte ici et également notre attitude à avoir en tant que serviteur. Donc au chapitre 24, si on reprend un peu de hauteur et de contexte, donc ce chapitre de l'Évangile intervient juste après le chapitre 21 au chapitre 23. Et chapitre 21 au chapitre 23 relate de la part de Matthieu les derniers moments du ministère public de Jésus-Christ. Il est au temple de Jérusalem, il intervient une dernière fois, il prêche la parole auprès du peuple, auprès des souverains sacrificateurs, auprès des pharisiens, et il annonce à la fin un jugement contre Jérusalem, contre Israël, contre ces personnes qui n'écoutent pas sa parole et qui ne le reconnaissent pas comme le Messie. Chapitre 24 au verset 2, Jésus-Christ annonce « Voyez-vous cela, en parlant du temple de Jérusalem qui est en face de lui, voyez-vous cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas une seule pierre qui ne sera renversée. » Il annonce la destruction de Jérusalem, la fin des temps. Ses disciples, au verset 3, lui disent « Dis-nous, maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus annonce la destruction de Jérusalem, Jésus annonce la fin des temps, Jésus annonce son retour et les disciples lui posent la question « Quand est-ce que ce sera ?» Dis-nous quels sont les signes. Jésus répond, Et on arrive, après une succession de réponses, d'événements qui va arriver, de souffrances, de tribulations, on arrive au verset 23. Donc, Jésus continue à répondre à la question, quels sont les signes, maître ? Quels sont les signes de ton retour ? Verset 23, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles. Un des signes que Jésus relève ici, c'est qu'il y aura des faux Christ, des faux prophètes. Quelles seront ces caractéristiques-là ? Ces faux Christ et faux prophètes diront « Je suis ici, je suis là ». Cela implique que ces faux Christ et ces faux prophètes seront là pour nous dire « Jésus-Christ est revenu en tant qu'être humain, Jésus-Christ est revenu sur terre, il est ici, il est là au milieu de vous, il est revenu sur terre en tant qu'humain. Et je suis Jésus-Christ, ou il est Jésus-Christ, il est ce Messie que tout le monde attend. Jésus-Christ est revenu et il est sur terre. Il est ici, il est là. » Jésus répond, ne le croyez pas. C'est une technique et c'est une manipulation, entre guillemets, que Satan utilise énormément. Depuis la création du monde, est-ce que vous vous rappelez dans Genèse, au tout début, quand Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, quelle est la ruse que Satan utilise, ou quelle est la technique que Satan utilise pour tromper Adam et Ève ? Il utilise le mensonge. Il utilise le mensonge. Est-ce que Dieu a vraiment dit que tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Est-ce que tu pourras devenir l'égal de Dieu ? Est-ce que tu ne vas pas mourir, mais est-ce que tu vas devenir l'égal de Dieu ? Et en ces temps, dans la fin des temps également, Jésus-Christ ici nous relate qu'il y aura des faux prophètes, des faux Christ, des faux messies qui viendront, qui mentiront parce qu'ils diront que je suis Christ, je suis venu sur terre, et qui mentiront également par rapport à ce qu'ils annonceront. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important pour nous, en tant que chrétiens, de prendre du recul sur ce que les gens nous disent, de connaître également la parole de Dieu. Il y a beaucoup de courants en ce moment de pensée, pas forcément des gens qui disent « je suis le Messie », mais beaucoup de courants de pensée aussi qui essaient de détourner la parole de la même manière que Satan essaie de détourner la parole de Dieu. Est-ce qu'en croyant en Dieu, je peux devenir riche ? Est-ce qu'en croyant en Dieu, je peux devenir pour plein de succès ? Est-ce que je vais avoir plein de richesses matérielles ? Est-ce que la vie sur Terre, c'est juste de profiter de la vie, de ne pas avoir de souffrance ? Est-ce que directement, je peux devenir l'égal de Dieu ? Toutes ces choses-là, toutes ces questions-là, je les ai entendues. J'ai discuté également avec certaines personnes lors de sorties d'évangélisation ou même lors de rencontres avec des pseudo-religions. Et à chaque fois, il y a deux choses qui remettent en cause. L'autorité de la parole. Est-ce que la parole de Dieu est suffisante ou pas ? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui manque à la parole de Dieu ? Et moi, tout de suite, je pense à 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, instruire dans la justice afin de préparer tout homme de Dieu à des œuvres bonnes. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, toute l'écriture qu'on a reçue, la Bible est inspirée de Dieu. Et elle est suffisante pour nous. Nous n'avons pas besoin de revenir à d'autres écrits, revenir à d'autres pensées de prophètes ou de pseudo-prophètes qui auraient eu une révélation. Et également, un verset qui se trouve dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, quand on remet en cause, est-ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ou pas ? Est-ce que Jésus-Christ est Dieu ? Revenons à la parole aussi. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc face à ces mensonges, face à ces doctrines, il est important pour nous en tant que chrétiens de nous rappeler de la vérité, de nous rappeler ce que nous rappelle la parole. Toujours avoir à l'esprit que Dieu nous donne ce discernement-là, de l'esprit, pour entendre, comprendre ce que les gens nous disent, ce que les courants et même les faux prophètes qui arrivent veulent nous rapporter, veulent nous dire, et que nous puissions les mettre à la lumière de l'esprit. Une autre caractéristique également de ces faux prophètes, de ces faux Christ, ou même de ces sectes, verset 26, il dit « Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. » Donc on parle encore une fois du faux prophète ou du faux messie. il est dans le désert, il est dans les chambres. Donc ça fait référence à des lieux qui sont lointains, des lieux qui sont clos, des lieux qui sont secrets. Oui, les faux précis, les faux prophètes et les faux messies vont se révéler et vont vous demander de venir dans des endroits où vous serez peut-être reclus, dans des endroits où il n'y aura pas de lumière tant d'un point de vue littéral que d'un point de vue aussi spirituel. Ils essaieront de vous mettre à l'écart. Autant Jésus-Christ est venu au milieu de la terre pour partager sa parole, un ministère public à la vue de tous et que tout le monde a pu entendre, autant ces prophètes, sauf ces faux prophètes-là, vont essayer de prétendre avoir reçu une révélation tout seul dans un désert, dans une chambre, et vouloir ensuite la partager aux autres. Tel est l'avertissement que nous donne Jésus. Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 23 également, Jésus continue tout au long de son ministère de mettre en garde les chrétiens contre les faux prophètes et contre l'arrivée des faux messies. Et ici, il nous donne encore une description encore plus grande qui s'intensifiera lors de la fin des temps. On a vu ici une description des signes à travers les faux prophètes, à travers leurs paroles, à travers également leurs tactiques. Verset 27, Jésus nous dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Il a décrit l'arrivée des faux prophètes et l'avènement et également leurs paroles. Ces faux prophètes arriveront sur terre, diront qu'ils sont humains. Ces faux prophètes essayeront de vous séduire, de vous détourner de la parole de manière un peu secrète et détournée. Mais ici, au verset 27, il nous montre une vision totalement différente de Jésus-Christ. Il viendra comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Ce sera totalement évident. Pas besoin de choses cachées, pas besoin de doctrines détournées. Mais le retour de Christ sera visible de tous sur la terre. Et on va voir ensuite, au verset 29, comment va se manifester ce retour. Donc verset 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Oui, frères et sœurs, quand Jésus-Christ est venu sur terre, il est venu de manière totalement humble, il est venu se soumettre, il est venu en tant qu'homme se dépouiller de sa nature divine pour se charger de nos péchés, pour se charger de notre rébellion et même du poids de notre condamnation et payer le prix sur la croix. C'est ce qu'il a décidé de faire quand il est venu sur terre. Mais ici, à partir du verset 29, on voit une vision totalement différente. Lors du retour de Christ, il ne viendra plus en tant qu'homme, homme de douleur, mais il viendra de manière totalement plein de gloire, plein de puissance. On le voit, la création, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, toute la création vibrera, tremblera, sera ébranlée par le retour de Christ. Ce sera quelque chose d'incroyable. Même moi, quand je vous parle, c'est compliqué hein, de se rendre compte. Même moi, quand je préparais, c'est très compliqué de se rendre compte de ce qui va arriver. Mais tout ce qu'on sait, c'est que personne ne pourra en douter. Personne ne pourra douter du retour de Christ. Verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » On l'a vu, les faux prophètes, ils ont dit quoi ? « Je viendrai sur terre. » Le Messie est un homme qui reviendra sur terre. Ici, Jésus-Christ nous dit non. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Frères et sœurs, je pense qu'on ne peut pas faire plus évident que ça. Il viendra, toute la nature sera ébranlée. Et il viendra du ciel pour son retour. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, frères et sœurs, encore une fois, chaque personne sur cette terre, croyant ou nous croyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Pourquoi elles se lamenteront ? Parce qu'elles reconnaîtront que Jésus-Christ est là, que Dieu est de retour sur terre. Et elles se lamenteront, pourquoi ? Parce qu'elles savent le sort qui les attend. Elles savent que Jésus revient pour juger la terre et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et encore une fois, Jésus-Christ reviendra dans toute sa gloire, dans toute sa puissance pour juger la terre. Tel est les signes, tel est la manière dont Jésus-Christ reviendra, totalement radicale et totalement différente de ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux faux prophètes. Encore une fois, on a vu déjà dans ces deux premières parties une dichotomie, en fait, vraiment une différence entre le retour annoncé des faux prophètes et le retour de Christ. Quelque chose qui se fera dans les ténèbres, quelque chose qui se fera dans la gloire et dans la puissance. Maintenant que Jésus nous annonce que son retour est proche, maintenant que Jésus nous annonce qu'il va revenir sur terre, il continue avec une parabole au verset 32. Il prend une comparaison à travers le figuier. Donc le figuier, j'en ai un chez moi. Je le cultive pas, hein, mais j'en ai un chez moi. Et je sais qu'il faut en prendre beaucoup soin parce que c'est très fragile. Et à partir du moment du printemps, lorsqu'on avec le soleil, avec l'eau, enfin j'utilise mes termes, avec la nature, il y a des signes, il y a des signes qui ne trompent pas par rapport au printemps et à l'été qui arrivent. Quand les branches deviennent tendres, cela veut dire que le figuier se prépare et que la croissance du figuier se réalise bien et qu'il va bientôt porter du fruit. Ici, Jésus utilise exactement la même image pour nous rappeler que lorsque vous verrez les signes des fins des temps qu'il vient de dire, les guerres, les tremblements de terre, les souffrances, et on a vu après ensuite l'arrivée également des faux prophètes, l'intensité, les faux courants doctrinaux, quand tous ces signes-là arriveront, vous saurez que mon arrivée est proche. Sachez que le Fils de l'homme est proche, il se tient à la porte. Quand vous verrez tous ces signes-là, notamment également toutes ces fausses doctrines, tous ces faux prophètes, tous ces faux messies, sachez que je suis là, je me tiens à la porte, mon retour est imminent. Mes frères et sœurs, à travers ce passage, nous rendons compte que Jésus-Christ nous annonce que son retour est proche. Jésus-Christ nous rappelle qu'il revient. De la même manière qu'il est venu sur terre pour réaliser sa mission, pour nous sauver, nous arracher du péché, sachez que ce n'est pas fini. Qu'il va revenir. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles resteront. Ne passeront point. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu va se produire. Tout ce qu'il y a eu lors de la passion du Christ et tout ce qui va arriver également après le retour du Christ. Frères et sœurs, que nous puissions nous rappeler que le retour du Christ est une réalité. C'est une réalité pour nous. Elle arrivera, on va le voir après. Quand ? Mais c'est une réalité également, un impact aujourd'hui, dès à présent, l'imminence du retour de Christ. Jésus-Christ est proche, il se tient à la porte. Et il arrive. Nous avons vu dans cette première partie, donc, le retour de Christ. Il nous a raconté, à partir du verset 23, les signes, le faux prophète, les messies, radicalement différents de son vrai retour, de manière triomphale, éclatante, évidente. Toutes les personnes, tout le monde reconnaîtra qu'il est là. Et maintenant, on peut se poser la question, d'accord, Michael, merci, tu m'as rappelé, peut-être, que Jésus-Christ revenait, ou je le savais déjà. Mais la question, c'est comment ? Comment est-ce que ça peut avoir un impact pour moi dans ma vie aujourd'hui ? Comment est-ce que ce texte, ce retour, je peux le vivre aussi ? On va regarder maintenant à partir du verset 36, dans une deuxième partie, notre attitude en tant que chrétien par rapport à ce retour. Quel est l'impact que ce retour de Christ peut avoir ? Peut-être qu'il est loin pour moi, il est lointain, mais quel est l'impact qu'il peut avoir pour moi aujourd'hui ? Une question qu'on pourrait se poser tout de suite, ce serait « Mais quand est-ce qu'il revient, Michael ? Tu nous parles du retour de Christ. » C'est peut-être quelque chose qu'on aspire tous, à savoir quand est-ce que Christ reviendra. Verset 36, Jésus-Christ le dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. » Ni les anges de Dieu, ni le Fils, mais le Père seul. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc je pense qu'on a la réponse, personne ne le sait. Voilà, c'est fini. On va aller un peu plus loin. Des personnes me diraient, mais attends Michael, j'ai mis en jaune le ni le Fils. Michael, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que personne ne sait, ni les anges des cieux, donc les créatures que Dieu a créées, parfaites, et qui sont intimes aussi avec Dieu, ni le Fils, ni même Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est Dieu, et qui ne connaîtrait pas le moment où, Jésus, où il reviendra? Alors rassurez-vous, frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais encore une fois, Jésus-Christ est revenu sur terre, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est revenu dans une condition particulière. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, nous rappelle « Lequel existant en forme de Dieu, donc lequel Jésus-Christ existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. » Oui, frères et sœurs, rappelons-nous que quand Jésus-Christ est venu sur terre, il a décidé de s'humilier, il a décidé de descendre de son trône de grâce, de sa nature divine, pour devenir un homme, pour souffrir comme un homme, pour vivre comme un homme et pour mourir également comme un homme. Il a décidé, à travers son ministère terrestre, d'être en totale dépendance de Dieu. La parole de Dieu lui a été donnée par Dieu pour qu'il puisse apprendre, grandir, en stature, en connaissance de Dieu, mais également le moment où il devait revenir, il a décidé de ne pas le savoir sur son ministère sur terre. Au moment où il parle à ses disciples, il ne le sait pas. Pourquoi il ne le sait pas? Parce que Dieu a décidé que ce n'était pour son ministère sur terre, il n'avait pas besoin de le savoir. De la même manière que Jésus-Christ ne le sait pas et que Dieu a jugé bon qu'il ne le sache pas, nous aussi, frères et sœurs, nous devons accepter cette position-là. Dieu a décidé de ne pas nous révéler exactement le moment pour lequel il va revenir, dans lequel il va revenir. Mais nous devons accepter cette position d'humilité et de faiblesse par rapport à notre Seigneur. Martin Luther, donc théologien réformateur protestant, a dit « Dans sa révélation, Dieu dit aux pécheurs tout ce qu'ils ont besoin de savoir et non pas tout ce qu'ils aimeraient savoir. » Dans sa révélation, Dieu dit aux pécheurs tout ce qu'ils ont besoin de savoir, et non pas tout ce qu'ils aimeraient savoir. Oui, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de savoir quand est-ce que Jésus reviendra. Nous avons juste besoin de savoir qu'il va revenir, comme on l'a vu tout à l'heure. Il revient, c'est une vérité, c'est une réalité, et cela a un impact dans notre vie. Donc on a compris que dans notre attitude, arrêtons de nous poser des questions quand. Et je sais que plus les temps avancent, plus les souffrances de la Terre avancent avec le Covid, notamment les pandémies, toutes les théories conspirationnistes qui peuvent en sortir, toutes les études avec la numérologie, avec le calendrier des Mayas, enfin vous pouvez trouver plein de théories, tout ce que vous voulez. Tout le monde va avoir sa propre équation et va se dire, je sais qu'à tel jour, telle date, telle heure, la fin du monde arrivera. Mais encore une fois, rappelez-vous ce que nous dit Dieu ici, à travers Jésus-Christ, et ce que nous rappelle Martin. Nous n'avons pas besoin de le savoir. En tout cas, quand? Nous avons besoin de le savoir et nous rappeler que Jésus revient. Verset 37, Jésus-Christ utilise une autre image, une autre analogie, en nous rapportant l'histoire de Noé et du déluge. Il nous dit que le retour de Christ interviendra un peu comme l'avènement du Fils de l'homme interviendra comme les jours qui précédèrent le déluge. Donc verset 38, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. » Je pense qu'on connaît tous à peu près l'histoire de Noé, donc cet homme de Dieu fidèle, obéissant. Dieu lui a révélé qu'il allait punir la terre et les hommes qui étaient rebelles, qui désobéissaient. Et il lui a demandé de construire une arche parce qu'il allait inonder, submerger la terre et plus aucune vie allait subsister. Alors imaginez-vous la scène. Noé, donc il est dans un lieu où il n'y a pas du tout de cours d'eau, où tout est sec. Il entreprend la construction d'une arche devant tout le monde, pendant beaucoup d'années. Et les gens passent devant lui et se moquent de lui. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu construis ton arche? De Pierre chapitre 2, verset 5 nous rappelle, en complément, que non seulement il construisait l'arche, mais c'était également un prédicateur de la justice. Noé était là et il avertissait le peuple. Il disait, je ne sais pas, peut-être vous voyez l'image souvent dans les films où on voit un homme qui appelle à la repentance, repentez-vous, avec une cloche et une pancarte, en tout cas moi c'est l'image que j'en ai, peut-être un peu kitsch, mais qui est là et qui parle, et tout le monde, en fait, tout le monde l'ignore. Telle était un petit peu la position de Noé. Prédicateur de la justice, il appelait à la repentance et il construisait l'arche. Les gens passaient devant lui, voyaient, mais ils ne se doutaient rien. Qu'est-ce qu'il faisait ? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien. Est-ce que manger et boire, c'est mal ? Non ? Avec modération. Est-ce que vouloir se marier et marier ses enfants, est-ce que c'est mal ? Ici, Jésus utilise ça pour nous dire, et ensuite, il ne se doutait de rien, ici, Jésus utilise ça pour nous montrer que, et pour nous dire que ces personnes-là ignoraient la réalité du déluge. Et ils préféraient manger, boire, et ils préféraient en fait vaquer à leurs occupations quotidiennes. Ce n'est pas mal de manger, de boire, et de vouloir se marier, et de vouloir marier ses enfants. Mais ça devient problématique lorsqu'on ignore totalement le retour de Christ, que l'on vit comme si Jésus-Christ n'allait jamais revenir, que le déluge n'allait jamais arriver, et que ces choses-là deviennent une priorité par rapport à la réalité du retour de Christ, par rapport ici à la réalité du déluge. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, on parle du retour de Christ. Et même quand j'ai préparé la prédication, j'ai choisi en plus ce texte, enfin, j'ai choisi. C'est un texte que j'ai choisi. Tout ça pour vous dire que quand j'ai préparé ce texte-là, le retour de Christ, je me suis posé la question. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai oublié ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai mis de côté ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, pour moi, est la vérité ? Et frères et sœurs, comme on l'a vu, de la même manière que nous croyons que la parole de Dieu est vérité et que tout ce qui est écrit s'est réalisé, tout ce qui est écrit également va se réaliser, se réalisera. Et le retour de Christ est une vérité. Peut-être que c'est une vérité lointaine, comme elle l'était pour moi, lorsque je préparais. Oui, Jésus revient, mais on a le temps. Oui, Jésus revient, mais est-ce qu'il est proche ou pas ? Ça fait 2000 ans qu'on l'attend, il n'est toujours pas arrivé. Bon, j'aurai peut-être le temps de vivre ma vie, de manger, de boire, de me marier, de marier mes enfants. Et il va arriver. Mais non, ici, il nous rappelle, déjà, premièrement, que le retour de Christ, c'est une vérité qui va se réaliser, qu'il est tout proche aussi. On ne sait pas quand. Et qu'il ne faut pas que ce soit une réalité lointaine, mais que ça ait un impact aussi dans notre vie. Frères et sœurs, que nous puissions vraiment, moi le premier, et c'est ce que j'essaie de faire, que nous puissions vraiment prier pour que nous puissions avoir cette réalité au centre de notre vie. Oui, Seigneur, rappelle-moi que tu reviens. Rappelle-moi que tu vas venir aussi dans toute ta gloire juger la terre. Et rappelle-moi aussi que tu m'appelles à vivre une vie conformément à ton retour. Oui, frères et sœurs, le retour de Christ est une réalité. Il faut aussi vivre en conséquence. Et nous allons voir ensuite, dans les différentes images que Jésus-Christ va utiliser, qu'est-ce qu'il nous invite à faire. D'accord, Jésus-Christ revient, c'est vrai. On a vu comment il va revenir, de manière éclatante. On a vu que ça ne sert à rien de se poser des questions quand est-ce qu'il va revenir, mais qu'il est important aussi pour nous de soupirer à son retour. Oui, Seigneur, c'est vrai que tu reviens. Enseigne-moi comment vivre ces temps. À partir du verset 43, Jésus utilise une image. Un maître de la maison qui veille la nuit et un voleur qui vient chez lui. Personne ne laisserait le voleur entrer chez lui et voler ses biens. J'espère que personne ne s'est fait cambriolé chez lui, et même si c'est arrivé, je pense que personne n'a reçu une notice, entre guillemets, un mail ou une lettre pour vous dire « Prépare-toi, vers 3h du matin, je vais rentrer chez toi, je te préviens, et comme ça tu peux te préparer. » Le voleur va arriver de manière totalement imprévue, brutale, sans que personne ne l'attende. Et Jésus nous exhorte à travers cette image à nous tenir prêts, en toutes circonstances, en tout temps. Que nous gardions à l'esprit que, qu'importe les circonstances, qu'importe notre situation, nous ayons là cette priorité également et cette volonté de vivre notre vie en accord et en pensant au retour de Christ. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le discours de Jésus-Christ continue. Et je déborde un peu de mon texte pour rentrer un peu plus en détail dans les applications. À partir du verset 45 de Matthieu chapitre 24, il va y avoir deux paraboles. Une troisième qui est la parabole des dix vierges, mais qui a des implications qui sont similaires à celles que j'ai choisies ici. Matthieu chapitre 24, juste après verset 45 à 51, la parabole des serviteurs et du maître. Donc Jésus-Christ nous rappelle qu'un maître donne sa maison et ses biens en gestion à deux serviteurs. Un serviteur fidèle et obéissant et un autre serviteur paresseux et oublieux. Le maître part en voyage et lorsqu'il revient, il voit que la maison est gérée de manière totalement différente par ses deux serviteurs. Ici, à travers cette parabole, Jésus-Christ nous rappelle que quand il est parti, dans les moments entre sa venue sur terre et son retour, il nous a laissé également une mission, il nous a laissé également des choses à gérer sur terre. Et frères et sœurs, comme on l'a vu, Jésus-Christ, de la manière qu'il est venu, il va revenir. Et dans cette parabole-là, le serviteur qui ne s'est pas préparé et le serviteur qui n'a pas écouté la parole de son maître va être mis de côté. La parole nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents parce qu'il sera mis à l'écart. Frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, si tu ne crois pas encore que Jésus-Christ est venu sur terre pour mourir pour tes péchés, si tu ne crois pas encore que tu es pécheur et que tu as besoin de Dieu dans ta vie pour comprendre et pour vivre la raison pour laquelle il t'a créé sur cette terre, si tu n'as pas encore connu Jésus-Christ, il est encore temps de revenir à Dieu. Il est encore temps de venir te repentir avant que le retour de Christ arrive. Parce qu'après, il sera trop tard. Quand le maître reviendra, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand le maître reviendra, la porte des noces dans la parole des dix vierges sera fermée. Et on sera dans l'obscurité. Et on subira le jugement de Dieu. Frères et sœurs, il y a également un appel, un rappel à travers le retour de Christ que nous avons encore du temps pour revenir à lui. Si nous ne connaissons pas Dieu, si nous n'avons pas décidé de placer notre vie dans les mains du Seigneur, Dieu nous rappelle à lui. Nous pouvons revenir à lui. Maintenant, pour nous, en tant que chrétiens, nous qui croyons en Dieu, nous qui avons décidé de placer notre vie en Dieu, quelle est l'attitude du serviteur ? Il a été fidèle et obéissant, travaillant pour son maître. Le maître lui a donné une mission. Le maître lui a donné des biens à gérer. Et chaque jour, à chaque instant, il a été fidèle. Chaque jour, à chaque instant, il s'est attendu à son maître. Chaque jour et chaque instant, il a travaillé, il a été actif pour la gloire, pour le bien de son maître. Et frères et sœurs, que nous puissions également, comme ce serviteur, garder à l'esprit que même si le maître n'est pas encore là, il revient, et que nous puissions également travailler chaque jour, être fidèles et obéissants dans la parole de Dieu, fidèles et obéissants dans ce qu'il nous appelle à vivre, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et également à aimer notre prochain, que ce soit ici à l'Église, que nous puissions nous encourager en tant que chrétiens. Oui, peut-être que le retour de Christ pour moi est lointain, peut-être que j'ai oublié que Christ revient, mais on peut s'encourager ensemble, s'exhorter ensemble à marcher dans l'obéissance de la parole, à marcher dans l'amour également les uns pour les autres, à marcher également dans l'amour pour notre prochain. Oui, parce qu'il y a des gens en dehors de cette Église, des gens en dehors de notre cercle qui ne connaissent pas encore Christ, qui peut-être sont sous le coup de la colère de Dieu. Et quand il y aura des pleurs et des grincements dedans, nous ne voulons pas forcément que ces personnes-là soient à l'écart. Donc, que nous soyons vraiment comme ce serviteur, obéissant à chaque instant, fidèle, travaillant pour son maître, pour ce que le maître lui a confié. Et encore plus loin, dans la parabole des talents, Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, il a également cette notion d'utiliser en fait ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné du temps, Dieu nous a donné des ressources, tous tels que nous sommes. Tous de manière différente, bien entendu, c'est ce qui fait la beauté et la complexité aussi du corps de Christ, mais il nous a tous donné des dons, des talents, du temps. La question, c'est, comme il le rappelle dans la parabole des talents, c'est qu'est-ce que nous en faisons ? Qu'est-ce que nous faisons de ces dons et de ces talents ? C'est une prêche que je me prêche moi-même, en fait, quand je vous le fais. Et vraiment, tout le temps que nous avons, tous les dons que nous avons, est-ce que, comme le maître qui les a confiés à son serviteur, je veux les utiliser pour les faire fructifier, je veux les mettre au service de Dieu, pour le bien du royaume, non pas pour des vérités éphémères, corruptibles, et qui vont périr, mais pour une espérance éternelle, pour une vérité également, et un salut qui dépasse notre vie juste finie sur terre. Que nous puissions également réfléchir à ça, comment est-ce que je me prépare, comment est-ce que j'attends le retour du Seigneur, comment est-ce que je mets mes services au don de l'avancée du royaume sur terre. Oui, Seigneur, c'est Seigneur. Frères et sœurs, c'est Seigneur aussi. C'est quelque chose qui est important à faire en tant que chrétien, que nous puissions prendre du recul sur nos vies quotidiennes. Et on sait à quel point nous pouvons manger, boire, nous marier nos enfants, et moi, être dans mon train-train quotidien. Mais vraiment que nous puissions profiter de ce passage pour prendre du recul et nous rappeler. Et que nous puissions prier également pour que le Saint-Esprit nous convainque de cette réalité-là. On peut entendre, vous pouvez entendre ce que je vous dis et repartir chez vous, mais vraiment que le Saint-Esprit puisse vraiment nous convaincre et nous rappeler de manière puissante que le Christ revient, que son retour est imminent et qu'il nous appelle à veiller, à être préparés en toutes circonstances. Pour terminer, pour boucler la boucle, vous vous rappelez, on a parlé du Black Friday au tout début. Le Black Friday aura lieu le 26 novembre 2021. C'est tous les 4e vendredi du mois de novembre, après Thanksgiving. Right? Et on sait que ça a lieu à un moment donné. Et on se prépare pour ce moment. Maintenant, si je vous disais, OK, le Black Friday, c'est plus le 4e vendredi du mois de novembre, mais il peut avoir lieu n'importe quand. Alors là, vous serez, oula, faut pas que je manque l'alerte pour avoir les bons plans et les discounts, etc. Donc je vais me tenir prêt. J'ai ma liste. J'ai ce que je vais acheter, j'ai les différents sites où peut-être j'aurai les meilleurs discounts, enfin bref, en fait je serai vraiment très très préparé pour ça. Qu'importe quand ça va arriver, au moins je sais que tout est réglé et je pourrai en profiter. Je pense que ce serait l'attitude qu'on aurait. Si je sais que le Black Friday va arriver, mais je sais plus quand est-ce que c'est, quoi qu'il arrive, je serai préparé. Alors combien, à plus forte raison, non pas pour profiter de réductions, mais pour l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, l'événement pour lequel nous, en tant que chrétiens, nous voulons vivre, nous voulons soupirer, et nous voulons que ces choses arrivent également, pour que nous puissions vivre pleinement dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et de le voir face à face, combien à plus forte raison, pour cet événement-là, nous devrions être préparés. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va arriver, mais préparez-nous dès aujourd'hui. Qu'importe le moment, qu'importe le temps, je serai préparé. Je pourrai répondre quand Jésus-Christ reviendra, « Oui, Seigneur, j'ai écouté, j'ai été fidèle, j'ai été obéissant jusqu'au bout. » Et je pourrai entendre le Seigneur me dire, « Tu as été bon et fidèle dans les choses que je t'ai confiées. Mon serviteur, viens et réjouis-toi avec moi. Et viens partager ma joie. » C'est vraiment la prière que j'ai pour moi-même et pour vous et pour nous tous. Ce que je voulais vous partager et encore qui est en process et en construction dans mon cœur. Et j'espère que l'Esprit également pourra vous inspirer et encore une fois vous convaincre que Jésus revient. Rappelons-nous que Christ revient et soyons dès à présent préparés pour son retour. Prions ensemble. Oui Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons encore une fois te rendre grâce pour ta parole, Seigneur, qui est vérité, ta parole également qui est lumière lorsque des fois nous sommes dans l'obscurité de nos vies, ta parole également qui nous rappelle ce que tu veux, Seigneur, pour nous sur terre, qui nous rappelle également que les richesses ne sont pas ici, bas sur terre, mais qu'elles sont dans le ciel auprès de toi. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous avons la conviction que tu voulais nous rappeler que tu reviens en cette période de fin d'année, en cette période également de Noël. Nous nous rappelons que tu es venu sur terre, mais que ce n'est pas la fin. Et que la fin, c'est quand tu reviendras encore une fois de manière glorieuse. Et en attendant ton retour, Seigneur, que tu nous incites par ton esprit, que tu nous rendes vraiment excités aussi à l'idée que tu reviennes. Et que ce retour également puisse créer en nous cette joie et également cette envie de t'obéir, de te servir. Dans tout ce que tu nous donnes, dans tout ce que tu nous fais grâce de vivre, Seigneur, nous voulons être des serviteurs fidèles et obéissants jusqu'au bout. Oui, Seigneur, merci encore parce que nous croyons que tu fais de grandes choses par ton esprit, non pas par nos propres forces, mais par ta grâce seulement, Seigneur. Tu viens toucher les cœurs, tu viens les transformer. Et nous voulons vraiment que, encore une fois, tu nous parles et que tu nous fasses vraiment que cette réalité peut-être lointaine de ton retour devienne une réalité pressante et présente chaque jour de notre vie, Seigneur. Oui, nous voulons te rendre grâce encore une fois et que ta parole encore nous fasse du bien et que ta parole nous inspire encore pour vivre notre vie conformément à ta parole. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen.